Dan Gagnon pour Podcast Tout Seul, édition du mercredi 1er avril. Ça arrive plus tard que prévu pour une raison assez simple. D'habitude, j'enregistre la veille et hier, j'ai pas enregistré. On avait une soirée spéciale et honnêtement, je vous recommande de faire ça. On a fait une soirée jeu de société à distance avec des copains. Au final, on a fait très peu le jeu de société, mais c'était... Bref, moi, j'aime pas trop faire juste « viens, on se regarde et on boit un verre », mais le fait d'avoir le jeu de société dans le milieu a vraiment permis de démarrer une série de conversations, prendre des nouvelles de tout le monde, et on a super bien rigolé. Par contre, j'étais un peu gêné ce matin, en me réveillant, parce que je dis « soirée de jeu de société, ça va être bien, je vais boire un verre ou deux », mais je dose très mal mes gin tonic, mais je les dose très bien. Mais je crois que ça fait beaucoup plus que deux verres. Et vous en avez parlé du fait que j'essaie de faire attention, de ne pas arrêter de boire complètement, mais de contrôler les choses. Et c'est pas tant la quantité d'alcool que le fait que quand j'ai bu un peu, genre pas un verre, mais à partir du deuxième verre, mon centre des décisions est complètement modifié. Comme tout le monde, vous allez me dire, là, mais... Donc, tu traînes un peu plus longtemps le soir, tu dis « bah, 5 heures de sommeil, ça va aller ». Et donc, ce matin, je me suis réveillé avec une barre sur le crâne et j'ai essayé de me souvenir de ce que j'ai lu à de nombreuses reprises, à quel point quand tu as fait une erreur de savoir utiliser la maturité émotionnelle qu'il faut honnêtement pour juste l'identifier comme étant une erreur et pas commencer à te détester, pas... perdre de vue ton objectif, mais de dire « Ok, est-ce que j'ai fait hier? C'était une erreur. Où est-ce que j'ai foiré? Qu'est-ce que je peux faire à l'avenir? » Puis go, c'est pas grave, relève-toi. Je pense souvent à la phrase de Tony Robbins qui dit « Après combien d'essais, après combien d'échecs, tu dis à ton enfant que finalement, marcher, ça sera peut-être pas pour lui. » T'arrêtes jamais jusqu'à ce que tu réussisses. Et c'est la mentalité que j'essaie d'avoir avec les objectifs en ce moment. On est le 1er avril aujourd'hui, forcément, en tant qu'humoriste, c'est une journée que je déteste. C'est vraiment l'impression que... Mettons, si j'étais médecin, qu'il y a une journée dans l'année où les gens essaient de faire des opérations. Et c'est pas marrant, en général. Et il y avait un gros débat aujourd'hui à savoir, est-ce qu'on doit quand même faire des poissons d'avril, puisque avec tout ce qui se passe autour du coronavirus et de la quantité de fausses nouvelles qui sont diffusées, est-ce qu'on devrait pas faire... semblant faire gaffe. Moi, je trouve pas ça drôle, mais il y en a pour qui ça a l'air d'être si important. Amusez-vous, peu importe. Et je voulais pas parler du 1er avril sans essayer de trouver une bonne histoire autour de ça. Et je crois que j'ai trouvé le meilleur prank de tous les temps. Et il date, hein? Il date. Pour moi, en tout cas, je n'ai jamais lu de meilleure histoire. Si vous avez une meilleure histoire de poisson d'avril, je suis très ouvert à l'idée. En fait, je suis très fermé, mais je suis curieux. 1708. Il y a un auteur qui s'appelle Jonathan Swift, si ça vous dit quelque chose, c'est lui qui a fait les voyages de Gulliver. Il a fait un poisson d'avril de génie. À l'époque, l'astrologue le plus comme célèbre, c'est un gars qui s'appelait John Partridge. Et il a décidé qu'il allait pranker John Partridge. Donc, il s'est créé une fausse identité. Il allait lui-même être un astrologue du nom de Isaac Bickerstaff. Et une de ses prédictions, c'était que le 29 mars, John Partridge allait mourir. Et le 30 mars, il a fait circuler l'info comme quoi John Partridge était mort d'une fièvre. En soi, c'est assez horrible, on est d'accord. Mais donc, le 1er avril, il y a quelqu'un qui a toqué à la porte de Partridge en disant « Bon, ben je suis ici pour les arrangements funéraires. » Fait « Les arrangements funéraires de qui? » C'est « Ben, John Partridge. » Fait « Mais je suis John Partridge. » Fait « Je pense pas. John Partridge est décédé. » Et apparemment, pour les 7 autres années où il a vécu, il a toujours dû continuer de dire aux gens « Mais je ne suis pas mort. Je vous dis que je ne suis pas mort. » Et il n'a jamais su qui était Isaac Bickerstaff. Donc Isaac Bickerstaff était Jonathan Swift, l'auteur de Gulliver's Travels. Puis au final, ça a été sa deuxième œuvre pour moi la plus phénoménale parce que pranker un astrologue avec une prédiction de type astrologie, La boucle est bouclée. Donc voilà, l'anecdote, mon anecdote préférée autour du 1er avril. Je voulais revenir sur deux, trois choses, dont une, je vous avais demandé, hier on parlait des fans, des muses et tout ça, et j'ai parlé d'une femme donc, qui a été mariée avec George Harrison et avec Eric Clapton, et en fait je me rends compte que je ne l'ai pas nommée, et c'est un peu nul de dire que c'est une muse, et je ne l'ai même pas nommée, c'est Patty Boyd. Elle s'appelle Patty Boyd, elle était 10 ans avec Clapton, donc son deuxième mari, et ça s'est terminé, mais c'est finalement une des personnes les plus importantes de l'histoire de la musique, et voilà, je ne lui avais pas rendu justice hier, je trouve, donc voilà qui est réparé, elle s'appelle Patty Boyd, et parallèle à ça, je vous avais demandé de sortir, si c'était possible, vos grandes histoires de fans. Vous qui avez été fan, qu'est-ce que vous avez fait pour les gens dont vous étiez fan? Et ça m'a donné plein de belles histoires. Et je voulais vous raconter ça. Un peu comme la dernière fois, quand on parlait des meilleurs souvenirs d'enfance, mais cette fois-ci, c'est avec fan. Là, vous voyez, je suis en train, en live, de scroller sur Facebook pour essayer de retrouver, voilà, les histoires. Ça vient de Sabrina la première, perso au temps de la génération Boys Band, moi c'était Take That. Take That en Amérique du Nord, c'est vachement moins connu. C'est Robbie Williams qui est aussi vachement moins connu, mais c'était huge des Anglais et c'était toute la vie pour une génération. J'étais trop jeune pour aller les voir, donc je me contentais de mettre des posters dans tous les coins de ma chambre jusqu'au plafond. Ça, je pense que... Il n'y a aucune chambre d'adolescent qui n'a pas vécu la présence d'au moins un poster. Moi, c'était Shania Twain. Je crois que le dernier poster que j'ai eu, c'est vraiment Shania Twain. Je crois que c'est ma sœur qui me l'avait acheté vaguement pour faire une blague. Et il est resté dans ma chambre d'ado chez mes parents jusqu'à il y a 2 ans, je crois. Mais le poster que j'ai acheté parce que j'étais fan, moi, personnellement, c'était les Simpsons. C'était un poster de Bart Simpson qui regarde la télé. Et donc voilà, fan de choses qui... Personne qui n'existe pas. Puis vers la vingtaine, je suis tombé sous le charme de la musique de Simple Plan. Simple Plan, ce sont des Québécois qui chantent en anglais. Par chance, ils faisaient pas mal de concerts en Europe, alors j'allais les voir un peu partout et on les attendait souvent tard après leurs concerts car on avait alors la chance de pouvoir leur parler et faire des photos. C'est un truc que j'ai entendu souvent avec ceux qui sont fans et qui les suivent. Comme ils les suivent beaucoup, ils se retrouvent avec les mêmes groupes de fans qui suivent aussi les artistes beaucoup. Et donc, ça donne une autre espèce d'anecdote. Donc, je lui demande, est-ce que vous aviez un groupe de fans qui les suivait? Et Sabrina a répondu, on s'est lié d'amitié avec certaines. J'ai d'ailleurs une petite anecdote là-dessus. On s'était lié avec une fan, et son copain à Cologne. Et elle apprenait un peu le français, donc on parlait un peu français avec elle. Et à plusieurs reprises, elle traitait parfois son copain de « fils d'un pute ». Qu'elle disait ainsi, croyant qu'elle lui disait un petit mot gentil alors qu'elle l'insultait. Oui, mais ça, c'est toujours ça. Hein? Quand quelqu'un apprend une nouvelle langue, quelle est la première chose que tu lui apprends? Hein? Les insultes. Toujours. Barbara qui nous dit « tu veux pas savoir » et donc oh, d'office, tu veux savoir. Quelqu'un qui dit « tu veux pas savoir », c'est, je crois, le code universel pour avoir envie de savoir. Et... Elle a fait quand même quelque chose de fantastique. Elle savait que les parents de l'artiste qu'elle aimait avaient une boulangerie dans un village en France. Et ses parents un jour sont arrêtés en route vers des vacances, je crois, et elle avait écrit une lettre à l'artiste qu'elle avait été déposée à la boulangerie de ses parents. Ça, c'est quand même un ou deux levels au-dessus, mais quand même mignon de dire... Quand tes parents, j'imagine que dès que ton enfant est fan de quelque chose, ça te permet d'avoir du pouvoir, un certain leverage, un levier. Tu sais que tu peux utiliser quelque chose qui compte pour ton enfant. Tu sais comment lui faire plaisir aussi. Alors, je trouve ça beau aussi de se dire, bon, OK, on va arrêter dans un village en France à la boulangerie du père et de la mère d'un tel. Donc voilà, chouette histoire. D'ailleurs, sur Facebook, c'est mignon parce que Barbara a écrit et puis sa mère, après, a posté une photo de Barbara devant la dite boulangerie. Allison nous dit, alors c'est un peu la honte, mais bon. Quand j'étais petite, j'étais fan de Winnie l'ourson. Déjà, il n'y a pas de honte à être fan de Winnie l'ourson. Winnie l'ourson est adorable. J'avais commencé une espèce de collection, les peluches, les bics, les trousses, etc. J'avais même commencé un album que je confectionnais moi-même, comme une espèce de scrapbooking dédié à Winnie l'ourson. Du coup, j'imprimais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images d'Internet. J'écumais tous les sites, je scannais des pages de livres, j'imprimais en couleur, évidemment. Fait que je me faisais pas mal disputer par mon papa parce que j'utilisais beaucoup de cartouches d'encre. Et là, la stratégie qu'elle a trouvée, fort mignon. Donc un jour, j'ai trouvé un super stratagème. Entre parenthèses, j'espère que mes parents ne me lisent pas. J'imprimais des images, je les mettais dans mon sac d'école et je revenais en les montrant à ma maman en disant « Regarde, c'est mon amoureux qui m'a imprimé plein d'images. » Du coup, là, je vais brûler en enfer. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'en enfer, il y a énormément de gens dont le plus grand fait diabolique était de trouver une stratégie pour pouvoir imprimer plus d'images de Winnie l'ourson. D'après moi, Alison, t'es safe. Darwan nous raconte une histoire qui est vraiment chouette. Aussi loin que je remonte dans mes souvenirs, j'ai l'impression d'avoir toujours joué au foot, mais paradoxalement, je regardais que très peu de matchs à la télé. Un soir, je suis tombé sur la finale de l'Euro 2004. Tellement j'étais déconnecté, je savais même pas qu'il y avait l'Euro qui jouait. Bref, j'arrive pile au coup de sifflet final et je vois un gamin en train de pleurer toutes les larmes de son corps car son équipe a perdu la finale. Et j'entends les commentateurs dire que ce garçon a l'occasion de briller à l'avenir et qu'il devrait relever la tête. J'ai eu tellement peine pour lui que j'ai pris la décision de suivre la carrière de cet ado. Et c'est comme ça que je suis devenu fan pour la première fois de quelqu'un. 16 ans plus tard, ce garçon est devenu le meilleur joueur au monde ainsi que le sportif le plus suivi sur les réseaux sociaux. Et il a mis une photo de Cristiano Ronaldo en train de pleurer à 16 ans, 17 ans, 18 ans, 16, 18 ans je crois, sur le terrain de l'Euro en finale en 2004. Super histoire! De toutes les raisons pour lesquelles tu peux être fan de Cristiano Ronaldo, parce que tu l'as vu pleurer à la fin d'un match, et certainement celle qui arrive... qui est la moins répandue. Donc, merci à Darwan pour l'anecdote. Tout ça, je lis, ça vient de ma page Facebook, facebook.com/danjigognon, si vous voulez aller directement, sinon, mon nom, c'est pas très compliqué. Mélissa nous dit « Depuis l'adolescence, je suis fan de Nolwenn Leroy. La première fois que j'ai réussi à la voir en vrai, j'ai passé toute une journée dehors alors qu'on était en février. J'ai eu ma photo et j'ai fait de la fièvre le lendemain. » Et en plus, elle fait ça avec sa sœur. Elle dit « Donc, Cynthia m'accompagne avec tout ça, donc c'est cool. » Effectivement, parce que si t'es deux sœurs, qu'il y en a une qui adore et l'autre qui déteste, vous allez avoir une enfance vachement compliquée. François nous dit un truc qui m'a vraiment fait marrer. Il dit « Moi, j'étais fan des Nordiques. » Alors, au Québec, il y a le Canadien de Montréal, c'est mon équipe favorite. Et pendant tout un temps, il y avait les Nordiques de Québec. Et donc, la rivalité canadienne-nordique, c'était en Belgique, le Standard contre Anderlecht. En France, PSG, OM, voilà, c'est intense. Mais le Canadien gagnait toujours, puis les Nordiques étaient pas bons, en fait. Il y avait un slogan qui était, pendant des années, « Le meilleur est à venir ». Et les pauvres fans, je dis pas de bol, des Nordiques de Québec, savaient qu'ils allaient se faire rétamer année après année, puis à un moment donné, ils ont commencé à s'améliorer tranquillement. Et tu voyais, il y avait beaucoup de bons joueurs. Tu sais, quand tu vois un bon noyau arriver, monter, puis tu fais comme « Oh là !» Ça va être pas mal. Et au moment où il commençait à être vraiment dominant, le propriétaire a vendu et déménagé l'équipe au Colorado. Et je crois que c'est une ou deux années après, ils remportaient le premier championnat de l'histoire de la concession. Donc ça a vraiment été dur pour les fans des Nordiques pendant des années. Et François nous dit « J'étais fan des Nordiques, la chose la plus radicale qu'on pouvait faire, fin 80, début 90, donc 90, c'était juste de ne pas les lâcher. » Parce que c'était si facile de lâcher avec le pauvre rendement qu'ils avaient saison après saison. Mais moi, je vivais à Québec, donc encourager une autre équipe ne faisait aucun sens, sauf évidemment celle qui allait affronter le Canadien de Montréal en playoff. Évidemment, quand tu détestes une équipe au point d'aimer toutes les autres, sauf celle-là. De toute façon, pour nous, il n'y a plus de suspense. On savait déjà, avant le milieu de la saison, que c'était foutu. J'ai ici une assez longue histoire spéciale d'un gars qui s'appelle Cyril. J'aimais Prince. Pas plus que tout, mais plus intensément que les autres artistes à cette époque. J'étais dans les stades de la tournée Sign of Times et d'Alphabet Street. J'ai fait un after Unplugged aussi. Ça, c'était fantastique. Prince avait la réputation déjà d'adorer jouer. Il y a même des gens qui racontent que ça arrivait de temps en temps, je crois que c'était via ses réseaux sociaux ou son site, je sais pas. T'as coup, tu recevais un message en disant « Private Prince Party » et j'ai entendu une fille qui travaille sur une radio qui s'appelle K-Rock à Los Angeles dire qu'elle avait reçu ce message-là, fan de Prince depuis toujours, elle a dit « Ok, fuck it, j'y vais. » Et en fait, elle s'est retrouvée dans une propriété privée de Prince. Il était à plusieurs, quelques dizaines, je crois, de fans. C'est juste que Prince adorait jouer pour des gens, donc il s'est mis à jouer. Et à cette époque-là, Prince refusait de faire Purple Rain, je crois. Et apparemment, il a trollé un peu les fans qui étaient genre vaguement dans sa maison. Je crois que c'était au piano, d'ailleurs. C'est une anecdote que j'ai entendue dans un podcast il y a 7-8 ans, donc désolé si ma mémoire flanche un peu. Et apparemment, il a commencé à jouer Purple Rain. Par ça, il s'est arrêté, il a regardé les fans, puis il a juste fait « Nah! » Il est parti sur autre chose. Mais qu'est-ce que tu vas faire? En vouloir à Prince quand t'es dans sa maison, dans un concert privé? Et voilà. Donc, je reviens à l'anecdote. Le Unplug, Prince faisait ça souvent. Il faisait genre 1, 2, 3 heures de concert. Puis après ça, il allait jouer ailleurs. Je sais quand il était à Bruxelles, c'était au casino qu'il allait. Mais donc voilà, c'est assez légendaire. J'étais à l'école en pub à Paris. Grande période Canal+, où passe Purple Rain. Il y a là une fille de toute beauté, j'insiste, qui est fan elle aussi. Objectivement, je suis pas moche à l'époque. Mais côte à côte, je souffre de la comparaison avec elle. Magnanime, je l'invite à venir le voir chez mes parents sans trop y croire parce qu'il n'habite pas à côté. Des trains, des bus sont impliqués, elle accepte assez naturellement. Je suis très bien, comprenez-moi, je vole. Mes parents sont absents, commence le périple le week-end suivant et franchement, je suis un gentleman, autrement dit, j'ai la trouille. Aucune allusion sera émise portant à confusion de tout le trajet. Je suis aussi détaché que possible, peu, mais je lutte. Je vois les regards envieux qui me toisent, la scrute comme si j'apportais la renaissance italienne en Seine-et-Marne. Personne n'est préparé à ça. On arrive, on s'installe, je lui propose à boire, elle préfère pas. C'est cool chez mes parents, il fait beau, on s'assoit, le film part, on trippe. On discute, je la fais rire, je m'efforce à ce qu'elle se sente à l'aise et ça marche plutôt bien, elle se détend, on est copains. Alors elle s'autorise un verre. Un verre pour ne pas me laisser seul. D'une connerie de liqueur, probablement sucrée. Et là, je comprends pourquoi elle évite de boire. Ça a un vrai impact. Il y en a qui ont une intolérance. Et après ça, si vous voulez voir la suite de l'histoire, vous pouvez aller lire ce qu'il y a écrit sur la page Facebook. Mais en gros, la fille entre dans un état second qui met le gars très mal à l'aise. Il dit après, je l'ai donc prise dans mes bras, on s'est calé dans le canapé, je lui ai caressé les cheveux le temps qu'elle revienne à moitié. Long, tellement long. Elle est revenue à elle, m'a expliqué un peu ce qui s'avère être une vraie intolérance à l'alcool. Il y en a qui ont cette allergie-là. M'a demandé de garder ça entre nous, très gêné, ce que j'ai fait et ce qu'elle a apprécié. Et qui m'assureront plus tard d'autres histoires. Merci Prince, où que tu sois, pour ta musique et mon extra scolarité. Et ça, c'est quelque chose de beau. Il y a peu d'histoires. Je veux dire, cette histoire-là se finit bien, mais est un peu étrange à un certain moment. Mais il y a peu d'histoires de flirt, d'amour, de cul, où il n'y a pas de musique impliquée. Tu sais, en tant qu'humoriste, c'est toujours une frustration de ne pas pouvoir vivre la même vie que les musiciens. Et quand je parle de vivre la même vie, je veux dire, moi, si je fais une blague, les gens l'entendent une fois, ils sont contents. C'est ma meilleure blague à vie, à la limite. Une deuxième fois, ça leur rappelle un bon souvenir et c'est fini. Donc, par définition, les gens me demandent toujours du nouveau matériel. Quand tu es un chanteur, c'est exactement l'inverse. Tu vas voir un concert, tu t'en fous en général du nouvel album. Tu veux entendre les gros classiques. Parce que une blague fonctionne une fois. C'est un effet de surprise. Donc, une fois que la surprise est passée, c'est fini. Mais avec la musique, c'est une émotion. Ça vient chercher une émotion et tu peux taper 100, 200 fois au même endroit. À la limite, c'est de plus en plus efficace parce qu'il y a des souvenirs qui s'ajoutent. À chaque fois, la chanson devient de plus en plus chargée. Et ça, c'est, moi, personnellement, ce dont je suis le plus envieux. La raison pour laquelle, principalement, j'aurais préféré être musicien qu'humoriste, le fait de pouvoir monter sur scène, jouer juste 2-3 notes et avoir tout le public qui fait comme « Wow! » Moi, si j'arrive sur scène puis je dis genre « Je sais pas si vous avez remarqué... » Wow! Il y a personne qui fait ça. Donc, tu es condamné à toujours être dans la nouveauté. Je sais que pour certains chanteurs, trouvent ça frustrant de devoir refaire la même chanson encore et encore alors qu'ils veulent plutôt faire le nouvel album. Mais ils ne sont pas là pour argumenter avec moi, donc j'ai raison. Une qui m'a fait rire beaucoup aussi, Stéphanie, qui nous dit « Je suis resté 10 heures debout pour être tout devant au concert de Placebo. En parenthèse, Brian Molko, épouse-moi. Et je me suis évanoui, mais pas au concert, dans le tram au retour parce qu'il n'y avait aucune place assise. J'ai trouvé ça. Qui s'évanouit pas devant son artiste préféré? Normalement, c'est ça. Tu vas au concert, ton artiste préféré, tu t'évanouis. Après, dans le tram, tu te reposes. Mais là, résister tout le concert, s'évanouir dans le tram. Donc, je rigole parce qu'elle est de toute évidence bien maintenant aujourd'hui. Mais voilà, il y a plein d'histoires de fans comme ça que j'ai trouvé vraiment super chouette. Merci beaucoup de l'avoir partagé. Encore une fois, merci de prendre du temps. Je lis tous les commentaires. J'essaie de répondre à tous les commentaires, mais c'est vraiment ça qui assure une, je trouve, une originalité, une qualité de contenu. Donc, merci beaucoup pour ça. Il y a une chose dont je voulais parler et en terminant. Et je suis vraiment pas sûr de moi là-dessus. Donc, je vais dire ce que je pense. Si je suis dans le champ, si je dis de la merde, contactez-moi. Mais j'ai lu un article très intéressant d'ailleurs d'un magazine québécois qui s'appelle Clin d'œil, qui parlait d'une fille, en gros, qui a simplement fait un peu de buzz sur Internet récemment parce qu'elle a mis une photo avant et après parce qu'elle a eu un changement de poids. Jusqu'ici, c'est pas hyper novateur, sauf qu'elle a fait dans l'autre sens. Elle a dit, en gros, avant, voici à quoi je ressemblais. Aujourd'hui, je ressemble à ça. J'ai du mal un peu à accepter les choses, donc j'ai choisi de prendre ça en main et de le diffuser sur Internet pour m'aider à accepter la chose. Et moi, je trouve, chacun, évidemment, fait ce qui marche avec sa personnalité. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire quand je suis mal à l'aise avec une situation. Ben, je m'ouvre. Et il me semble que ça fait l'effet d'allumer la lumière quand t'es un enfant puis t'as peur qu'il y a un monstre en dessous de ton lit. Le fait de mettre ça au grand jour te permet de voir la réalité en face. Moi, c'est plus facile pour moi de l'accepter, de le processer dans ma tête. Et donc voilà. Et ça a inspiré plein de gens à faire la même chose en disant ah, moi aussi j'ai du mal, blablabla. Donc, un exemple d'une fille, ça m'a quand même fort touché. Elle dit avant, je pesais, genre, je sais pas, 140 livres. Et maintenant, je sais pas combien, mais beaucoup plus. Et dans le je sais pas combien, mais beaucoup plus, il me semble que c'est une phrase qui est hyper poétique. Pas poésie dans le sens de sa rime, mais poétique dans le sens de. Il y a un gros pouvoir évocateur. Je sais pas combien, mais beaucoup plus. Donc tu vois que c'est clairement une difficulté pour la personne. Et malgré tout, elle le diffuse, elle le publie parce qu'elle fait quelque chose que moi je considère super courageux. Essayer d'accepter quelque chose qui est difficile à accepter en faisant des choses qui sont difficiles à faire. Et je trouve ça admirable. Ça m'a fait penser évidemment au mouvement Body Positive, qui dans le soi est absolument génial. Le point, c'est de dire, t'es pas obligé de correspondre à l'image, quelle que soit cette image, pour te sentir bien dans ta peau. Ça devrait être un minimum, hein, on est bien d'accord. Moi, quand j'étais jeune, je me trouvais beaucoup trop mince, beaucoup trop maigre, et tu super fort victime de moquerie aussi quand t'es trop mince, trop maigre. Les gens font « Pourquoi tu manges pas? Tu pourrais manger. Toi, t'as de la marge. Toi, t'as de la chance. J'aimerais ça être à ta place. Je sais pas, je me trouve trop maigre. » Tu n'as pas le droit de dire que tu te trouves trop maigre. C'est comme si ta cause était moins valable que ceux qui sont, ils se trouvent trop gros. Et je trouvais ça hyper frustrant parce que dans les deux cas, c'est « Mon corps n'est pas celui que je voudrais avoir. » Et soit c'est ça, t'acceptes ton corps comme il est, soit tu fais les efforts pour essayer de le rendre comme tu veux. Et dans ces efforts-là, ben, y a rien qui est juste. Il n'y a pas de justice. Il y en a pour qui ça va être très facile, d'autres très difficile, certains impossibles. Donc, tu as besoin, évidemment, d'un mouvement qui dit à tout le monde, arrêtez de vous foutre la gueule des gens pour ce à quoi ils ressemblent. Là où ça me gêne, c'est que tu as clairement des gens qui l'utilisent comme bouclier. Je trouve un peu dangereux. Raconter une anecdote, je connais quelqu'un qui était chez le médecin. La personne a clairement un problème de surpoids. Va chez le médecin lui conseille pour sa santé d'essayer de perdre du poids. Et le réflexe normal de la personne a été de traiter le médecin de grossophobe. C'est pas de la grossophobie, c'est un fait scientifique. Si tu pèses 8000 kilos, ton cœur va pas durer longtemps. Et tu peux t'accepter, tu peux trouver ça beau, tu peux choisir de pas changer. Mais tu peux pas nier le fait que le concept de poids santé existe parce qu'en dehors de ce poids-là, t'es moins en santé. Et voilà, c'est juste ça que je voulais dire. J'aime pas, en fait, quand les gens tirent la couverture à eux, quand ils utilisent quelque chose de vertueux, comme le mouvement body positive, pour faire de la merde. N'importe quelle excuse. Je reviens encore à cette histoire de confinement avec le coronavirus, mais plein de gens qui disent comme « Ah, oh, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça. Confinement, ça n'a rien à voir avec le confinement. Tu ne fais pas de vélo intérieur dans ton vélo intérieur que tu as acheté il y a 10 ans parce que c'est le confinement et que tu es dans un autre état d'esprit. Tu peux pas trouver une bonne solution si tu n'identifies pas bien le problème. Et une fois que tu as identifié le problème, tu es un adulte, tu n'as pas à te justifier auprès de qui que ce soit si tu ne fais pas de tort à qui que ce soit. Là. Tu peux dire à ton médecin que tu n'as pas l'intention de perdre de poids. Mais est-ce que ton médecin est grossophobe? Non. C'est un scientifique. Et je sais que c'est pas facile. Moi, j'ai toujours voulu être plus musclé. Là, quand j'étais jeune, j'étais trop mince. À un moment donné, je trouvais un peu trop gros. Mais je me trouvais mou. Tu sais, j'ai 37 ans maintenant, donc quand tu t'assois, t'as l'impression que tes deux côtés viennent faire des bisous à tes cuisses. Tu fais... Oh. Il y a deux façons de voir les choses. Je pourrais me dire, genre, bon, j'accepte la situation, j'ai la chance de vivre dans un univers où j'ai tellement à manger que j'ai quelques kilos en plus. Mais moi, ça a pas, pour moi, ça n'aurait pas été la bonne chose. Parce que ce que moi, je sens, c'est que je choisis de ne pas faire d'efforts par facilité, je choisis de ne pas être en santé par paresse, et ça me donne une définition de moi-même qui ne me plaît pas. Si toi, tu dis, garde, j'ai travaillé très fort dans la vie, je travaille sur autre chose, peu importe si j'ai 5 kilos en trop, c'est magnifique. Et c'est pour ça, que, de manière générale, hein, mais encore plus avec le poids des gens, foutez-leur la paix. Moi, il y a un truc qui m'a toujours énervé. Moi, j'adore les yoga pants, à titre personnel. Et personne ne doit s'habiller pour me plaire à moi. Je veux dire, t'as beaucoup de gens, quand ils ont perdu ou gagné du poids, font, ah, je suis plus gros, je suis moins, tu sais, je suis trop mince. Et les gens disent, tu devrais pas te plaindre, t'es belle. Ou genre, mais non, non, garde ça, t'es belle comme ça. Fait, oui, on s'en fout que toi, ça te donne envie de l'autre personne. C'est pas ça le point. Donc, moi, j'adore les yoga pants. Je trouve ça merveilleux. Je trouve ça beau. Ça me plaît. Et j'en ai parlé beaucoup. À une époque, quand je faisais. Je sais pas si c'était dans les podcasts, j'en avais parlé ou sur scène. Je disais que pour moi, on devrait donner le prix Nobel de la paix à la personne qui a réussi à convaincre les gens de se promener en yoga pants dans la rue. Il y a tellement de fois où je passais une mauvaise journée, j'ai vu un yoga pants passer et ça m'a rendu heureux. Voilà. Et on me répondait souvent, genre, oui, mais c'est pas tout le monde qui devrait s'habiller comme ça. Et cette phrase-là m'énerve. Qu'est-ce que tu sous-entends? Que si t'es grosse, tu devrais pas porter un yoga pants? Que si t'es un gars, tu devrais pas porter un yoga pants? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Les gars, je vais ajouter un élément de décence. Si on voit le paquet en public, personne ne veut voir ça. Maintenant, il existe d'autres manières de, mais voilà. Mais sinon, qu'est-ce qui fait que tu as uniquement les gens qui te plaisent, qui dans ta tête ont le droit de s'habiller d'une certaine manière? La fille qui pèse 200 livres, 100 kilos, tu veux pas qu'elle porte de yoga pants. Mais si elle s'habillait autrement, est-ce qu'elle te plairait plus? Non. Est-ce que de toute façon, elle veut toi? Certainement pas. Est-ce qu'elle s'est habillée pour te plaire? Non. Est-ce qu'elle devrait le faire? Fuck non. Arrêtez de vouloir décider comment les autres s'habillent et se promènent en fonction de vos goûts. Vos goûts, c'est de la chiotte de toute façon. Si vos goûts étaient géniaux, vous regarderiez des photos de vous il y a 10 ans puis vous diriez, waouh, c'était super. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez une photo de vous il y a 10 ans? Vous trouvez ça ridicule? Ben, breaking news, votre look aujourd'hui est tout aussi ridicule. Donnez-vous un 10 ans de break avant de vous administrer vous-même le titre de génie en chef du goût universel. C'est fou ça, j'arrive des fois à m'énerver tout seul. Je suis littéralement tout seul dans une pièce et je sens vraiment la tension monter. Donc, je vais me calmer directement. Puis tu sais quoi, plus que ça, je vais même arrêter le podcast là. Et ben on se reparle demain. Et merci beaucoup. Vous continuez de commenter beaucoup. Très agréable. Patreon.com/DanGagnonPodcast. aussi sur les plateformes genre Spotify. Et continuez de commenter sur ma page Facebook, Twitter, sur Instagram. Ça fait toujours plaisir. Et merci à ceux qui partagent. J'ai vu qu'il y a eu plusieurs partages aussi pour certaines choses que j'avais fait. C'est comme ça qu'on va réussir à grandir puis avoir plus de bonnes anecdotes pour pouvoir créer le show le plus intéressant possible ensemble. J'ai reçu aussi des messages de gens qui me disent que ça les intéresserait de faire la même chose, mais qui n'osent pas trop, ils ne savent pas s'ils vont être à l'aise. Petit truc au passage, vous n'allez pas être à l'aise au début, on s'en fout. Ça ne change rien. Tu dis, je ne suis pas à l'aise, mais j'essaie quand même. Puis dans 3, 4, 5, 6 épisodes, vous allez être à l'aise. Mais ouais, faisons le plus de contenu intéressant possible. Moi, j'essaie de vous donner 100% de ma personnalité, de ce que je suis, pour que ça ait une saveur précise. J'espère que ça va vous plaire. Puis ça me ferait plaisir d'entendre la même chose chez d'autres personnes. C'est pas mal ça. Bye bye!